l'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita d'Acuña.
Je suis émerveillé par la créativité des jeunes qui travaillent l'église, disait notre invité, le père Bruno Lepeu, des missions étrangères de Paris, le jour de la fête de Notre-Dame de Sichuan, patronne de la Chine. Une phrase très franche qui traduit son espérance pour l'église de Chine face aux nombreux défis qu'elle a à relever. Mais une phrase évidemment qui peut que susciter les questions que nous allons lui poser aujourd'hui. Qui sont ces jeunes qu'il a rencontrés? Qu'est-ce qui suscite cet émerveillement? Quelle est cette église qu'il a rencontrée? Bonjour, père Bruno Lepeu.
Bonsoir.
Alors père, je vous propose de partir sans délai en Asie en compagnie de Louis Ducret pour les nouvelles des églises d'Asie. Bonjour, Louis Ducret.
Bonsoir, Duarte.
Alors Louis, c'est d'abord une délégation bouddhiste cambodgienne qui rencontre le pape François au Vatican.
Le 19 janvier, le pape François a rencontré une délégation de bouddhistes et de représentants de la société civile cambodgienne. Ils étaient notamment accompagnés du cardinal Miguel Guixo, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et du père Will Conquer, missionnaire MEP au Cambodge. Durant l'audience au Vatican, le Saint-Père a souligné que la coopération interreligieuse est un élément important de la société qui permet aux gens de vivre paisiblement comme frères et sœurs, réconciliés entre eux et avec l'environnement dans lequel ils vivent. Actuellement, des rencontres ont lieu à Rome sur la conversion écologique. Pour le Saint-Père, en s'appuyant sur leur propre tradition religieuse, les bouddhistes et les chrétiens peuvent apporter leur propre contribution. Citation. En suivant les principes que le Bouddha a légués à ses disciples, y compris les pratiques du metta qui comprennent l'effet de ne pas blesser les êtres vivants et d'adopter un mode de vie simple, les bouddhistes peuvent parvenir à une protection compatissante de toutes les créatures de la terre, leur habitat. De leur côté, les chrétiens peuvent s'acquitter de leurs responsabilités écologiques quand, comme des intendants fidèles, ils protègent la création, l'œuvre que Dieu leur a confiée pour la cultiver et la garder. Fin de citation.
Alors que l'archidiocèse de Pékin soutient la sinisation du catholicisme chinois.
Les autorités chinoises, chaque fois qu'elles parlent du rôle des religions dans le pays, insistent sur la nécessité de la sinisation. Dans son discours lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois, marquant un troisième mandat présidentiel historique, Xi Jinping a renouvelé son engagement en faveur de la sinisation de la religion, en vue de guider l'adaptation de la religion et de la société socialiste au contexte chinois. Mais que signifie exactement cette sinisation? Parmi les exemples qui illustrent la volonté du gouvernement, on trouve une exposition inaugurée récemment à l'archevêché de Pékin, marquant le 15e anniversaire de la nomination de l'archevêque. L'exposition, intitulée « Honorer le ciel et aimer la patrie, l'histoire de la sinisation du catholicisme à Pékin », comprend un ensemble de 41 panneaux avec plus de 600 photos. Le panneau d'introduction explique que l'objectif de l'initiative et de promouvoir davantage la sinisation du catholicisme, de mieux comprendre la déclaration importante du secrétaire général Xi Jinping sur la religion, de soutenir la culture chinoise, de renforcer la confiance culturelle et d'explorer les riches ressources culturelles catholiques de Pékin. En fin de compte, l'attachement au patriotisme est bien plus mis en avant que Matteo Ricci, avec des personnalités patriotiques telles que Mgr Fu Tuishan, considéré comme un personnage clé ayant défendu à Pékin l'idée d'une église autonome vis-à-vis de Rome.
Alors qu'un film sur la vie d'un héros catholique de l'indépendance coréenne est au sommet du box-office.
Un film musical sud-coréen, Héros, consacré à Han Jung-jeon, un catholique et militant indépendantiste coréen, figure importante de l'histoire récente du pays, est sorti en salle au mois de décembre. Le film occupe actuellement une place de choix dans le box-office. Né en 1879, Han Jung-jeon était issu d'une famille bouddhiste convertie au catholicisme en 1897. Le 26 octobre 1909, en vue de résister à l'occupation japonaise de la péninsule coréenne, Han Jung-jeon a abattu le Hirobumi Itō, le premier ministre du Japon et premier gouverneur japonais en Corée. Il a ensuite été détenu, emprisonné par les forces japonaises, avant d'être exécuté par pendaison en 1910 à l'âge de 31 ans. Son acte est considéré par ses compatriotes comme un symbole de résistance contre le militarisme et l'impérialisme japonais de l'époque. Il est devenu un sujet populaire dans la culture coréenne. Malgré ce statut de combattant de la liberté et de résistant pour la cause nationale, l'église locale catholique l'a condamné durant des décennies pour son acte, en le considérant comme un meurtrier. Toutefois, en 1993, l'église a changé de position quand le cardinal archevêque de Séoul a décidé de lui rendre hommage. Citation. Il a agi de manière juste en défendant la nation. L'Église catholique ne considère pas comme un crime, un meurtre, qui est commis dans le but de défendre la nation contre des violences injustes. Fin de citation.
Merci, Louis Ducret. Père Bruno Le Peu, envoyé à Hong Kong en mission pour le monde chinois depuis 1994, a appris le cantonais et connaît bien le pays et ses habitants. Sa vocation, annoncer le Christ, c'est la foi chrétienne. Pour lui, Hong Kong, c'est pour la vie. C'était le portrait réalisé en 2014 par KTO, 20 ans après votre départ. Père Bruno Le Peu, c'était prévu par le Big Boss, cet engagement à vie. Comment vous êtes devenu missionnaire pour le monde chinois à vie?
Alors, ça dépend qui vous visez par le Big Boss. Parce
avec
que si c'est Dieu, je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix. Au moment de la première communion, je voulais être prêtre. Au moment de la profession de foi, j'ai commencé à vouloir être missionnaire, c'est-à-dire aller dans des lieux où il n'y avait pas beaucoup de prêtres, pensant qu'en France, il y en avait pas mal. Et puis, après, en quatrième, on nous a parlé des chrétiens clandestins en Chine, et là, ça a fait tilt. Je ne connaissais pas la Chine, mais je me suis dit, là, il y a besoin de prêtres. Et puis, quand j'étais en terminale, on a un jésuite qui revenait de Chine, qui avait rencontré des jésuites sortis de prison, et il avait rencontré ensuite des étudiants qui leur avaient dit, avant de partir, est-ce que vous avez un message à transmettre à la jeunesse en France? Et les jeunes avaient dit, ne nous oubliez pas. Et bon, tout ça avait fait tilt chez moi, et je suis rentré au séminaire pour les missions étrangères, et ils m'ont envoyé à Hong Kong pour le monde chinois. Donc voilà, c'est un chemin assez rectiligne, où je reconnais vraiment le doigt de Dieu, quoi.
Alors ce chemin rectiligne, précisément, il vous a amené à vous consacrer à un sujet particulier, émergence d'une église fraternelle et synodale en Chine, analyse théologique d'une enquête auprès des jeunes catholiques chinois. Père, d'où vient ce sujet et pourquoi l'aborder par cet angle?
Alors ça peut paraître un peu abscon, mais en fait, j'ai passé, en plus de toutes mes années à Hong Kong, un certain nombre de temps à faire des allers-retours avec la Chine pour les visiter, pour comprendre les choses. J'ai passé pas mal de temps à Hong Kong dans la pastorale des jeunes, et si bien qu'après, en Chine, on m'a demandé de faire des sessions de formation, et c'est comme ça que j'ai un peu découvert les jeunes sur place. Et un jour, notre nouveau supérieur général, Gilles Rétinger, m'a demandé de vulgariser ma connaissance de la Chine. Et donc, ça s'est transformé par un doctorat. Et la meilleure façon pour moi d'aborder la situation de l'Église en Chine, c'est pas par toutes les difficultés. On a parlé de sinisation tout à l'heure, on a parlé de difficultés du clergé, mais en voyant ce qui se passait avec les jeunes, d'avoir une approche pleine d'espérance. Et donc, c'est auprès des jeunes que j'ai été me renseigner pour voir ce qui était en train de naître dans l'Église en Chine, d'où cette dimension d'émergence de l'Église. Et la meilleure façon pour comprendre, c'est d'aller écouter. Et donc, j'ai été dans 14 lieux différents en Chine pour faire des enquêtes, des interviews. J'ai pu recueillir 56 interviews de jeunes, et dont 11 qui m'ont servi de base principale pour faire mon étude. Donc c'est d'écouter à partir de ce qu'ils vivent, de voir le travail de Dieu dans leur vie, et voir ce que ça nous dit de comment l'Église peut accompagner le travail de Dieu.
Et alors, on sait combien dans une thèse le projet initial ou l'intention initiale est déterminante. Analyse théologique, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est-à-dire, en écoutant ces jeunes, vous dirigiez les questions dans ce sens, ou c'est après coup, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Alors, c'était des entretiens totalement non directifs, de façon à ce que ce ne soit pas moi qui leur fasse dire ce que je voulais entendre, mais vraiment les laisser parler, en leur disant, raconte-moi ton histoire de foi. Et donc, ils démarraient j'allais dire de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi j'ai précisé analyse théologique, c'est que en règle générale, quand on fait des enquêtes, c'est une analyse sociologique. Et donc, mettre des outils sociologiques pour comprendre, analyser ce que ces jeunes racontent. Insister sur le fait que c'est une analyse théologique, c'est prendre ce qu'on appelle le travail de la narrativité, un petit peu comme un texte biblique. Et c'est pas pour rien que, ensuite, j'ai utilisé les Actes des Apôtres, sur lesquels j'ai fait le même travail d'écoute. Et c'est la même grille qui a été utilisée dans les deux cas, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle l'intrigue. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces jeunes, et ainsi de comprendre le travail de Dieu dans leur vie. Et ça, pour moi, c'était assez émerveillant, parce qu'ils m'ont ouvert leur cœur, et Les jeunes partent d'une situation qui n'est quand même pas évidente, puisque leur formation catéchétique a été très simple. Ils avaient le catéchisme question-réponse comme on l'avait en France dans les années 60, il y a 70 ans. Quoi. Et donc, ils apprenaient les choses par cœur, qui ne les motivaient pas, qui ne réveillaient pas leur foi. Et donc, avec plutôt tendance à ne plus vouloir aller à l'église. Et c'est une rencontre à l'âge adolescent, un camp de jeunes, une retraite, ou quelque chose qui leur a fait découvrir que c'était sympa d'être chrétien ensemble. Une rencontre, une expérience fraternelle en église. Et là, ils ont découvert que aimez-vous les uns les autres, c'était pas simplement une belle idée, mais que ça se, quand on le vivait, ça changeait la vie. Et ils ont commencé à s'intéresser à l'église, ils ont été touchés, formés, rejoints par le Seigneur. Et au lieu que ça soit le Jésus de leurs parents, c'est devenu mon Jésus, leur Jésus à eux. Et voire même mon Jésus grand frère, quoi, très proche. Alors qu'avant, ils avaient une vision très lointaine de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment sur cette dimension fraternelle de la communauté qu'il y a quelque chose qui se noue. C'est vraiment ce que j'ai découvert dans ma thèse.
Et alors, ces jeunes catholiques chinois, vous en avez rencontré un certain nombre. Il y a un d'entre eux, Paul, un jeune converti qui vous a marqué particulièrement. Pourquoi Paul? Quelle est sa trajectoire? Et en fait, de qui est-il le symbole?
Alors Paul, moi je l'avais rencontré dans des formations de jeunes où il était très engagé, c'était un animateur et il m'avait beaucoup impressionné. Et j'ai cherché, quand j'ai commencé à faire mon enquête, j'ai cherché un cas un peu modèle, donc je l'ai interviewé lui. Et j'ai découvert en fait qu'il venait d'une histoire beaucoup plus inimaginable que je ne le pensais. Il était d'une famille, sa grand-mère était catholique, son père n'avait pas été baptisé, ou il avait été baptisé mais il n'était pas chrétien. Au sens actif, quoi. Sa mère n'était pas catholique, lui n'avait, et son frère n'avait pas été baptisé. Et un jour, son père, en allant en Malaisie, en s'arrêtant devant une église, il y a eu une révélation, quoi. Donc il est revenu, il est devenu motivé. Et un jour, la grand-mère en a profité pour emmener ses deux petits-fils se faire baptiser avec la maman qui les accompagnait. Et le curé en a profité pour baptiser la mère avec, sans aucune formation. Et donc les trois ont été baptisés sans être vraiment chrétiens, quoi, convertis. Et c'est plus tard, à l'âge de 17 ans, qui ont été invités à un camp d'été. Ils y ont allé pour faire les fous. Et en fait, ils ont été touchés par justement la qualité des relations. Et en revenant dans leur village, ils se sont dit, on va faire pareil. Et ils ont invité leurs copains à venir à l'église. Et au lieu d'avoir les 30 grand-mères qui avaient à l'église, ils se sont retrouvés avec 150 jeunes qui sont venus à l'église. Et les jeunes eux-mêmes se sont dit, il faut qu'on fasse un peu plus que simplement se retrouver. Donc ils ont commencé à se former, à structurer. Et puis il y a eu des expériences spirituelles qui les ont touchés fortement. Et progressivement, ces jeunes ont commencé à... Il y en a un certain nombre qui ont été baptisés, parce que dans les 150, la plupart n'étaient pas chrétiens, qui étaient venus avec leurs copains. Ouais. Et ensuite, ce jeune est devenu jeune professionnel. Dans son usine, il a réservé en ville un étage pour que les jeunes puissent se réunir, prier. Sa mère, qui était à l'époque baptisée par la force des choses, s'est retrouvée à être catéchiste, à annoncer l'évangile. Donc toute une famille qui a été transformée. Et je me dis, là, on a vraiment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre de façon palpable. Et c'est ça qu'il faut aller comprendre. Et je l'ai retrouvé dans beaucoup de cas.
Eh bien, merci Père Bruno Lopeux, prêtre des missions étrangères dans le monde chinois depuis 1994. Vous y avez acquis une expérience enrichissante de la pastorale des jeunes. Je vous propose d'écouter ensemble un chant qui leur tient à cœur et que vous connaissez bien.
不管浪有多
D'entendre un chant très symbolique pour les étudiants chinois et auquel le père Bruno Le Peu, notre invité, tient particulièrement. Alors, père Bruno Le Peu, ce chant, au-delà évidemment de la barrière de la langue qui évidemment le rend plus abstrait pour des noms sinophones, il est chargé d'un sens particulier, mais lequel? Qu'est-ce que veulent dire ces paroles?
Alors, c'est un chant qui est en mandarin. Le refrain dit « Envoie-moi Seigneur » pour la conversion des millions d'âmes. Envoie-moi Seigneur pour que la Chine se convertisse au Seigneur. Et donc c'est un chant qui est très souvent utilisé en fin de camp de jeunes, au moment de l'envoi. Et c'est un chant qui est très émouvant. Souvent ça se termine par des pleurs, ils chantent ça en s'embrassant. Et j'ai un chant qu'on a repris pour mes 25 ans d'ordination, parce que pour nous missionnaires, envoie-moi pour la conversion de toute la Chine. Ça a du sens.
Évidemment, pour ces jeunes, c'est celui dont ils se souviennent et qui crée un élément un peu commun. Alors précisément, ces jeunes, vous en avez parlé, jusqu'à 150 qui se retrouvaient autour de Paul, des chrétiens comme des non-chrétiens. Alors peut-être qu'on sort un peu du cadre de votre étude, mais dans ces 150, ou ceux des 150 qui n'étaient pas chrétiens, qu'est-ce qui les a motivés à les rejoindre? Est-ce qu'il y a éventuellement une solitude de ces jeunes dans la société? Pourquoi cet effet?
Alors d'abord, il y a l'effet adolescent, c'est-à-dire que les jeunes attirent les jeunes. Donc quand un copain dit « venez, c'est sympa », on est plus motivé que quand c'est la grand-mère qui dit « venez, c'est sympa ». Mmh. Et donc ils ont suivi leurs copains. En plus, ils avaient appris pendant le camp un certain nombre d'activités, de grands jeux, de choses qui étaient attirantes, qu'ils n'avaient pas à l'école. Il faut savoir aussi qu'on est dans une société qui est très compétitive, où chaque chose est faite avec un objectif derrière la tête, en disant c'est pour gagner plus d'argent ou pour obtenir des avantages, des choses comme ça. À l'inverse, quand on se retrouve sur une paroisse et on fait les choses gratuitement, pour le plaisir, où tout le monde est égaux, cette dimension de fraternité, d'égalité, de gratuité, ça dénote dans la civilisation, dans la société chinoise d'aujourd'hui. Et donc ça attire les jeunes. Et même dans, je pense à une jeune fille qui est, quand je l'ai interviewée, elle était encore catéchumène. C'est ça aussi qui l'a motivée. C'est ce côté, tout le monde égaux. Elle s'est retrouvée un jour à une réunion où il y avait l'évêque, des prêtres, des religieuses, des jeunes. Elle représentait son équipe de jeunes. Tout le monde était autour de la table, comme si on était vraiment frères et sœurs, quoi. Et donc, c'est ça qui l'a touchée, parce que vraiment, on est frères et sœurs. Et ça, elle disait plus que dans ma famille, quoi. Et c'est vraiment pour ça que sur le côté de la fraternité, il y a beaucoup de choses à travailler, et c'est le meilleur témoignage qu'on peut donner. Comme le Christ qui nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns les autres, que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, ça fait partie même de la dimension d'évangélisation.
Donc, évidemment, cette fraternité, elle joue dans l'engagement initial, dans les premiers moments, les camps, les activités ensemble. Comment, et particulièrement dans l'exemple de Paul, ça se déploie dans le temps? Est-ce que c'est des choses qui durent? Est-ce que les aléas de la vie altèrent cette dynamique? Un travail, des occupations, des disponibilités moindres? Comment faire durer les choses?
Alors, je ne peux pas généraliser, parce que c'est très difficile de faire des généralisations sur l'ensemble de la Chine, Mais ce que je vois avec Paul, c'est que, au contraire, dans les difficultés, la fraternité était là pour le soutenir. Et donc, c'est dans le soutien des frères et sœurs proches que ça soit pour le travail ou même dans les engagements ecclésiaux, hein, parce qu'il y a des fois où c'est pas toujours facile. Ce soutien des autres a été indispensable pour lui. Et lui-même était prêt à aller soutenir les autres. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré dans un autre diocèse où il était venu aider un copain qui faisait une session de jeunes. Il était venu le soutenir. Donc, ce soutien mutuel est quelque chose qu'ils apprécient énormément et qui vraiment est précieux pour eux.
Et alors dans le témoignage de Paul, hein, parce que vous en parliez évidemment dans la revue MEP il y a quelques années, on voit ce passage frappant où il est un peu peut-être désemparé ou étonné par une certaine fluctuation. Et alors il se rend chez les protestants et là il voit une organisation très matérielle, très concrète, qui permet la pérennité ou la pérennisation de ces activités. Qu'est-ce que ça vous inspire et évidemment, pour les auditeurs français, voilà, est-ce qu'on peut s'en inspirer de quoi l'Église aurait besoin pour pouvoir reproduire ces activités?
Ce qu'il a découvert, c'est que ça marchait à condition qu'il y ait un animateur à plein temps. Qu'il y ait un jeune animateur qui soit au service des jeunes, ça changeait tout. Et donc, quand il a commencé à travailler avec quelques copains, ils ont même mis de l'argent de côté pour pouvoir aider à ce que la paroisse emploie un jeune pour s'occuper des autres jeunes. Et ça rejoint même ce qu'on a vu dans le synode sur les jeunes en 2018, sur l'importance de l'accompagnement, marcher avec. Et il n'y a pas mieux pour accompagner les jeunes qu'un jeune. Et ça, je pense que dans toutes les situations d'accompagnement des jeunes en Chine ou en France, cette présence de quelqu'un qui est disponible, qui peut les accompagner, les écouter, leur fournir aussi des occasions de se former, c'est indispensable.
Et alors, je vous cite Père Bruno Le Peu, « Un éclairage patristique a permis d'ancrer la fraternité ecclésiale dans le mystère de la fraternité en vie divine, offerte par le Christ frère. » C'est ce que vous écrivez donc dans votre étude. Qu'est-ce que ça veut dire, Père Bruno Le Peu, le Christ frère?
J'ai eu la chance de découvrir, en lisant l'énorme ouvrage de Michel Dujarrier, qui est malheureusement décédé samedi dernier, il avait 92 ans, mais il a vraiment donné énormément de sa vie pour nous faire découvrir que, en fait, à l'origine de l'Église, on insistait sur le fait que l'Église s'appelait Fraternité, Adelphotes. C'était le nom que l'on donnait à l'Église. Et donc, on va à l'Église. On ne va pas à l'Église, on va à la Fraternité. Quand on a un problème, on va en parler à la fraternité. C'est-à-dire, on va en parler à ce qu'on dirait aujourd'hui la communauté ou l'Église. Et en travaillant les pères de l'Église qui utilisaient ces expressions-là, il s'est aperçu que c'était fondé dans une compréhension du Christ comme frère, en partant de Saint Paul qui dit « le premier-né d'une multitude de frères ». Il n'a pas eu honte d'appeler ses disciples ses frères. Voilà. En reprenant Jésus sur la croix qui dit à Marie, voilà ton fils, il disait aussi à ce disciple qu'il aimait, ben finalement je suis ton grand frère, quoi, puisque on a la même mère. Et sous cet angle-là, on s'aperçoit que le rapport que l'on a à développer avec Jésus est un rapport de fraternité, puisque il n'est que notre frère, il n'est pas notre père. Dieu est le père, mais Jésus est frère et il nous accueille comme son frère, comme ses frères et sœurs. Et il nous partage sa vie divine. Et c'est pour ça que c'est une fraternité divine. C'est pas simplement quelque chose de moralisant. Il faut être gentil les uns avec les autres, il faut être frère et sœur, il faut aimer tout le monde. Mais c'est parce que Dieu, le Fils, Jésus, nous a aimés, nous a accueillis comme ses frères et sœurs, qu'on a été transformés en vie divine, fraternelle, quoi. Et c'est à cause de ça qu'on en témoigne autour de nous. Donc ça change nos manières de voir les choses, y compris dans la manière de m'appeler. Moi, je suis configuré au Christ, qui est Christ frère, pas Christ père. Ouais. Donc, c'est plus la peine de m'appeler mon père. Quand je vous dis mes frères et sœurs, ben, répondez-moi mon frère et pas mon père, puisque sinon, on n'est plus frères et sœurs. Donc, on en arrive à se poser, si on revient à la patristique, de se dire, mais est-ce qu'on a le bon vocabulaire? Est-ce qu'on est dans une situation ecclésiale normale? Est-ce qu'on ne fait pas un peu de paternalisme, alors qu'on devrait faire que du fraternalisme?
Donc évidemment, changer ce rapport et finalement apprendre à s'écouter comme frère. Merci frère Bruno Le Peu. Et nous, chers auditeurs, bien évidemment, nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.